Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aborde la douloureuse question de la piètre maîtrise du français au collégial avec Madoua Nika Cadet du Parti libéral, qui s'est plongée dans le rapport « Le temps d'agir » signé par trois experts en la matière. On y apprend entre autres que plusieurs professeurs au collégial ne comblent pas pleinement les attentes en matière de français écrit. Alors que faire? Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Mais bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Désormais, une fois par semaine seulement, on aura une dose de Rémi.
Ah!
Malheureusement.
Je suis devenu hebdomadaire.
Oui, c'est ça, hebdomadaire. Tu deviens une publication, donc magazine. dis-moi Rémi, le fiasco de la SAC. Éric Kerr a passé un mauvais quart d'heure. Pas juste un mauvais quart d'heure, une mauvaise semaine.
Oui, exactement. Ça a duré toute la semaine et c'est, je dirais que c'est le fait saillant de la semaine à l'Assemblée nationale. Donc, Éric Kerr qui a été l'objet de critiques cinglantes et justifiées parce que, évidemment, depuis ce fiasco qui a fait en sorte que des milliers de Québécois ont dû faire la file, ont dû perdre des journées, ont perdu du temps à essayer d'effectuer certaines transactions, soit sur le site de la SAC ou en allant au bureau, en se faisant dire qu'il ne devait pas être là parce qu'il n'y avait pas rendez-vous, là, etc., etc. Vous connaissez la situation.
Oui, on en a beaucoup parlé.
Ça a commencé au début par François Legault qui a comme défendu Éric Kerr en disant que ce n'était qu'un conseiller. Ouais. Ce qui est étonnant, parce que là, on se dit, bon, coudonc, on a un ministre responsable de la transition numérique, mais dans le fond, s'il est là juste pour conseiller, c'est loin d'être ce à quoi on s'attendait. Surtout que Éric Kerr était ministre délégué en 2018, mais ce chemin faisant, il a obtenu un vrai ministère, puis tu sais, ça fait en sorte aussi qu'on s'attendait à davantage d'imputabilité de sa part. Alors, Marc Tanguay, notamment, a été excellent, d'ailleurs, au cours de la semaine dans ses questions.
Oui.
Arun Boisy, mais aussi,
De Québec solidaire.
Oui, c'est ça. Il y a eu de nombreuses questions. Et je vais vous faire entendre un extrait, parce que Éric Kerr, il y a deux choses. Lui-même, donc, dans le fond, il a pratiquement fait la preuve de, je dirais pas peut-être l'inutilité là, de son poste, là, ce serait peut-être trop fort, mais de son pouvoir limité en tant que conseiller. Puis c'est lui qui en a fait justement quasiment la démonstration en lisant la loi créant son poste. Et l'autre élément particulier, c'est à quel point donc il se lave les mains. Je sais qu'il n'aime pas ce terme-là, mais c'est ça, c'est qu'il a expliqué en chambre que lui, il avait eu une présentation où il avait regardé le tableau de bord, que les feux étaient au vert du côté de la SAC pour le projet, là, pour la mise
en place. Oui, aujourd'hui, il a parlé de feux au vert encore, mais il a admis que c'était un fiasco, alors c'est des feux verts bizarres.
Ouais, des feux verts dangereux. Et, et il a dit tout simplement, ils nous ont dit ça, puis on les a laissés aller. Donc, on va écouter le premier extrait donc, de Éric Kerr.
Quand on est revenu au gouvernement, Madame la Présidente, oui, on a demandé à la SAC s'ils étaient prêts. La SAC nous a dit, nous sommes prêts. Fait qu'on les a laissés aller.
En terminant.
Et l'autre élément que je retiens aussi, c'est à quel point Éric Kerr a décidé, un peu comme un animal blessé, là, de montrer les griffes. Alors que, je dis, c'est lui qui est dans une position gênante, mais...
Il était baveux!
Il a été, c'est ça, arrogant à l'égard de ceux qui lui posaient des questions. Et je retiens un extrait aussi, donc, dans lequel on entend Arun Boisy poser des questions. Et Simon-Jolin Barrette, qui fait une intervention que j'ai trouvée vraiment complètement déplacée, qui, écoute, je vais utiliser un peu un terme joual, là, mais ça ressemblait à T'es qui, toi, pour poser cette question-là à Arun Boisy? Tu sais, en disant, le ministre, lui, il est là depuis 16 ans de service public, puis là, lui, il arrive, puis de quel droit il ose le critiquer? Bien, il fait sa job, là, Arun Boisy, de poser des questions.
Surtout devant un tel fiasco, c'est le mot du ministre.
Exactement. Et Éric Kerr, qui même après ça, après cet échange-là, qui est allé plus loin en se moquant d'Arun Boisy, on va écouter donc ces extraits.
Madame la Présidente, si je comprends bien, le ministre du numérique est assez ministre pour avoir une limousine, mais pas assez pour être plus qu'un conseiller dans un projet qui a coûté un demi-milliard de dollars. Ma question...
Je reconnais monsieur le leader du gouvernement brièvement.
Madame la Présidente, l'article 35, les propos tenus par le collègue de Maurice Richard sont blessants. Le ministre est député ici à l'Assemblée depuis près de 16 ans. Il se consacre corps et âme au service public depuis toutes ces années. Et là, il se fait donner la leçon par un député qui vient ici, qui le critique, qui ignore l'ensemble, Madame la Présidente, des efforts qui ont été faits durant toute la carrière du député.
Je suis debout.
Alors, c'est vraiment double faute là, sur la même séquence. Là. Simon Jolin Barrette, pas d'affaire à faire passer Arun Boisy pour un pioui qui n'a pas le droit de critiquer. Ça n'a pas rapport. Et Éric
Depuis Pierre... quand l'ancienneté empêche les critiques à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que c'est ça?
Et Éric Kerr, lui, qui se moque donc de son critique, alors que c'est lui qui pourtant a l'air fou dans cette histoire-là. Alors voilà, disons, ça a été un moment important de cette semaine.
Tu veux souligner aussi maintenant, Rémi, un moment où François Legault a répondu comme à côté de la plaque.
Oui, mais parce que je veux le souligner parce que je trouve que ça arrive quand même assez fréquemment lorsque Gabriel Nadeau-Dubois pose des questions à François Legault. Et là, c'est un exemple flagrant. Gabriel Nadeau-Dubois qui soulève le fait que dans la baisse d'impôts qui est attendue dans le prochain budget de la CAQ, ça va profiter davantage au PDG d'une entreprise qui va avoir à peu près 800 $ par année là, dans la baisse d'impôts.
Alors que la caissière va avoir comme 175 $.
Même pas, là, ouais, 130, je pense. Et, alors, ça a été soulevé par Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault répond en attaquant QS qui a distribué un pamphlet unilingue anglophone. Un dépliant dans le cadre de la campagne électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et souvent, Gabriel Nadeau-Dubois, on le voit là, sur son siège, qui fait des visages en voulant dire « Mais là, je suis découragé parce que c'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle. » Alors, ça, c'est un cas où c'est arrivé encore une fois. Et même Simon-Jolin Barrette, en question de règlement, est revenu avec l'attaque contre Québec solidaire. On va l'écouter.
Il aime ça, le premier ministre, utiliser la langue puis l'immigration pour faire diversion des enjeux qui touchent les gens au jour le jour.
Je reconnais le leader du gouvernement. Question de règlement.
Actuel, Québec solidaire a envoyé des dépliants unilingues anglophones au comté. Est-ce que Québec solidaire est fier de ça?
Bon,
de
faire en sorte... je suis debout!
Mais évidemment, ce n'était pas le propos de GND.
L'article 79.
On est sur un autre sujet.
Hein, l'article 79 aurait pu être invoqué.
Oui, exactement.
Restons sur le sujet.
Et tu vois, aujourd'hui, jeudi, Manon Massé a posé une question. C'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui a répondu. Et lui est allé sur les faits, là, c'est-à-dire bon, que la CAQ a envoyé non seulement des chèques, a fait profiter des personnes qui ont moins de revenus là, avec le crédit d'impôt pour les aînés, a gelé les tarifs, etc. Bon, alors, c'était la meilleure façon de répondre.
Tu veux nous parler maintenant de la publicité pour le français?
C'est quelques mots pour dire que je suis pas vraiment d'accord avec les critiques des partis d'opposition formulées ce matin comme quoi c'est pas avec ça qu'on va renverser la tendance ou que la publicité se trompe de cible, on devrait pas attaquer les jeunes. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne première publicité parce qu'il faut comprendre...
Une deuxième. Parce qu'il y en avait une l'an passé.
Oui, ça fait longtemps. Mais dans le cadre vraiment de la nouvelle opération, nouvelle offensive, si on veut, là, ça, c'est un premier morceau. Il y en aura d'autres. Donc, il ne faut pas le voir comme...
L'offensive du GALF. Oui. Le groupe d'action sur l'avenir de la langue française.
Alors, pour moi, là, je trouve que ça fait une belle première étape. Je ne trouve pas qu'on s'attaque aux jeunes. Je trouve que quand on regarde la publicité, moi, je l'ai fait avec mes ados, et j'ai trouvé que c'était... Ils ont souri parce que c'est une façon de leur montrer que... de leur faire prendre conscience que c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup d'anglicisme. Et le pire, c'est que des fois, comme parents, on entend nos jeunes, on entend les amis de nos jeunes qui viennent chez nous et y a comme une, des fois même une tentation d'utiliser leur, certains de leurs mots.
C'est insane à quel point ils utilisent des anglicismes.
Ouais, ou sick. Moi, j'ai tellement entendu sick chez nous là, quand quelque chose est incroyable ou superbe. Alors, donc, je pense que c'est une belle façon de faire prendre conscience, mais sourire aux lèvres et ça nous incite à faire mieux. Et c'est une, comme je l'ai dit, c'est une première étape. Il y aura d'autres publicités qui vont probablement viser d'autres éléments. Mais moi, je l'ai, écoute, je l'ai bien aimé. Je trouve que ça fait...
Elle fonctionne aussi, elle fait jaser.
Exact.
C'est ce qu'elle nous a dit hier, ici, à ce micro, le ministre de la langue française, ça Jean-François fait le Roberge. Oui, un des critiques, c'est Vincent Marissal de Québec solidaire. On peut l'écouter ce matin. Puis en même temps, moi, je trouve qu'il me rend hommage en disant que je suis un petit peu tannant dans ma critique des anglicismes et mon rôle de mononcle 101.
Moi-même, dans mon travail, là, il m'arrive souvent de faire un petit raccourci puis d'aller vers une expression anglophone parce que, regardez là, comme c'est insidieux, parce que c'est plus catchy, parce que ça accroche plus. Puis d'ailleurs, votre collègue Antoine Robitaille là, nous surveille, là, puis il fait régulièrement des chroniques là-dessus. Là. J'ai toujours l'impression qu'Antoine est en arrière de moi en train de me surveiller quelque part. C'est fatiguant. Mais c'est vrai que c'est invasif. L'anglais est une langue invasive. Cela dit, de un, je ne suis pas sûr qu'en visant les ados, c'est la bonne cible. En fait, je pense que ce n'est pas la bonne cible. Et de deux, l'approche culpabilisante, là, un peu moralisatrice, ça m'énerve. Puis je ne pense pas que c'est ça le gros problème du français.
On termine avec la fonderie Horn et le grand dérangement. Là, c'est oui. Un peu comme une déportation.
C'est une autre des nouvelles, une autre des nouvelles importantes de cette semaine.
Ben donc, oui.
Le gouvernement du Québec qui a présenté comme sa solution pour assurer une cohabitation à plus long terme là, entre les gens du quartier de la fonderie Horn et la fonderie elle-même.
De Rouyn.
Et écoute, c'est particulier. C'est la fonderie qui va payer pour que... les gens, pour acheter leur maison, en fait, là, on parle de 200 ménages qui seront invités à rester plus loin, donc, de la fonderie.
Mais t'as entendu les ministres ce matin qui nous ont dit que ce serait au choix des personnes?
Oui.
Donc, ça se peut que tu veuilles vraiment rester dans ta maison. Donc,
oui.
Tu sais, on imagine une famille tenace, là.
C'est ça.
Mais à côté... Tout est démoli?
C'est ça, c'est parce qu'ils...
Je comprends pas.
Ils disent qu'ils veulent pas forcer la main des gens. En même temps, plus tard aussi, la question a été posée, OK, qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui veulent absolument rester là? Puis là, les réponses sont pas claires. Alors, je pense que quand même, ils comptent sur le fait que les gens acceptent donc de se tasser de là. Et moi, je vois vraiment ça comme une mesure que le gouvernement utilise pour essayer de mettre le couvercle sur la marmite. Mais en même temps, écoute, c'est sûr que la fonderie va pouvoir continuer à émettre 5 fois plus de particules que dans le reste du Québec. Et il y a un effort, ils vont faire mieux que c'était, mais c'est quand même, c'est particulier. Moi, écoute, je pense qu'à plus long terme, on va voir la réaction localement. Est-ce que les gens acceptent ça? C'est une situation vraiment particulière où c'est difficile de faire en sorte que tout le monde soit gagnant.
Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
La maîtrise du français au palier collégial s'empirerait constamment selon le rapport Le Temps d'agir qui a été rendu public vendredi. On en discute avec Madoua Nika Cadet. Bonjour.
Bonjour Antoine. En effet, ça va de mal en pis.
Ben vraiment. Député de Bourassa-Sauvé, porte-parole en matière de langue française. Pour quiconque aime la langue française, il y a plusieurs aspects très déprimants dans ce rapport du comité Boivin-Chabot-Deburne. Vous en avez cité deux en chambre cette semaine, la piètre maîtrise du français écrit qui entraîne des échecs académiques chez nos jeunes. Puis après ça, plus de la moitié des nouveaux cégepiens qui estiment avoir un moyen ou un grand besoin d'aide en français.
Également le constat sur les disparités qui existent en matière de maîtrise de la langue entre les garçons et les filles. C'est aussi quelque chose que j'ai cité en chambre. Oui,
oui. Oui. Mais vous avez commencé par ces deux-là.
Oui, oui.
Mais lequel? Puis il y a les profs cancre aussi.
Oui, voilà. Ouais, là, c'est...
Excusez-moi.
Le terme, il est sévère
oui,
pour les enseignants, mais définitivement, donc, un corps professoral, un corps enseignant qui éprouve des lacunes, donc qui... Eux-mêmes, on voit
mais
que c'est
mais je vous donne
là.
Le choix.
Allez-y.
Quel aspect vous a le plus déprimé?
Eh là 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 là. C'est sûr que bon, on va peut-être revenir sur le dernier aspect. Là. Je vais continuer sur ma lancée sur les enseignants qui éprouvent des lacunes.
Oui,
je pense
oui.
que ça c'est définitivement déprimant parce qu'on voit le cycle. On voit parfois on parle de cercle vertueux. Là ici on a une espèce de cercle vicieux où on a des enseignants qui eux-mêmes sont passés à travers notre système d'éducation qui ont continué d'éprouver des lacunes à travers leur passage académique et qui aujourd'hui se retrouvent à être des enseignants au cégep et à ne pas avoir les outils pour pouvoir aider la prochaine génération. Moi, il y a un oiseau qui m'a soufflé que vous avez déjà été prof au cégep.
Oui, c'est vrai, oui.
Ça se peut. Donc, avec vous l'avez vécu. Avec, imaginez donc être dans vos chaussures et d'être dans votre position, puis ne pas être en mesure de pouvoir corriger les copies des élèves, ne pas être en mesure de pouvoir les aider. Je comprends bien que là, bien souvent, on parle pas des enseignants de littérature eux-mêmes, pour lesquels habituellement, ou du moins encore aujourd'hui, on arrive à en embaucher assez qui répondent aux exigences académiques des cégeps, des institutions collégiales. Mais on parle quand même des autres enseignants dans des matières tierces qui devraient être en mesure de pouvoir, à tout le moins, donc retirer des points là, aux élèves quand ils font des fautes dans leur copie puis ils ne sont pas capables de le faire. Mmh. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre qui nous empêche de pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est d'une part, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui fait que, indépendamment du fait qu'on n'a pas assez de gens qui ont ces compétences-là, c'est qu'on a une masse critique de gens qui se tournent vers le milieu de l'enseignement collégial, puis qui n'ont pas les moyens, là, qui n'ont pas tous les outils nécessaires pour pouvoir aider la prochaine génération.
Donc, c'est un peu ça qui vous a déprimé le plus.
C'est ça qui m'a
le fait
le
que
plus.
Les enseignants, plusieurs enseignants, ne maîtrisent pas le français
comme
ça.
C'est ça, parce que ça veut dire que si on n'agit pas maintenant, puis là, le rapport s'appelle « La maîtrise du français collégial, le temps d'agir », et dans la lettre qui accompagne le rapport, on nous dit « Le comité manifeste le souhait que les recommandations qu'il vous soumet aient des suites dans les meilleurs délais. Bon, raison de leur nature, les changements attendus peuvent parfois prendre du temps avant d'être observables. C'est pourquoi il est urgent d'agir dès maintenant. » Donc, si on attend, ben, définitivement, ce que ça veut dire, c'est que la prochaine génération, là on a des gens qui sont au cégep, qui ne sont pas en mesure, qui ont des lacunes, on continue de pelleter par en avant, mais eux-mêmes,
mais
quand ils vont
ministre,
pouvoir enseigner au collégial, ils les auront pas plus.
Mais la ministre Pascale Derry vous a dit qu'il y avait déjà des mesures qui avaient été mises en place. Elle n'a pas été précise, là. Elle a parlé pour les enseignants des cours de perfectionnement.
Oui, je pense, évidemment.
C'est quel cours?
C'est ça. Ça n'a pas été tout à fait précis. Vous avez raison. Puis j'imagine que dans sa réponse, elle référait à la recommandation 31 du rapport. Là. Donc, vous l'avez devant vous. C'est génial. On peut le consulter ensemble.
Ben oui.
Donc, dans le rapport, nos trois expertes recommandent que soient offertes au personnel enseignant des activités collectives ou individuelles de perfectionnement en français et donc, j'imagine qu'elle fait référence à cette recommandation-là, qu'elle a fait référence à cette recommandation-là dans sa réponse. Mais évidemment, c'est très, très, très large. La CAQ nous parle beaucoup de résultats, de bilans. Nous, on veut qu'il nous dépose un bilan, en fait. Elle nous a dit « oui, 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 inquiétez-vous pas ». Non, on n'a pas publié le rapport pendant 13 mois, mais c'est une priorité. Puis on a agi. Donc, oui, 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 on a offert des cours de perfectionnement. Là, on est là, on agit. C'est très, très, très important pour nous. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui a été fait exactement, qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qui ne sera pas fait.
Mm-hmm. Et pour les garçons,
aussi,
c'est déprimant.
C'est très déprimant.
Les garçons ont... Pourquoi les garçons ont un rapport plus difficile à la langue, selon vous? La langue
française. Je sais pas.
Je pense que c'est la même chose pour l'anglais, d'après ce que j'ai compris. Là, mais...
C'est la même chose pour l'anglais?
Oui.
Je sais pas pourquoi c'est si difficile. Je pense que c'est quelque chose qui traîne bien avant ça, bien avant d'arriver au collégial, évidemment, là, comme pour toutes les difficultés de nos jeunes. Mais nos garçons, de façon particulière, ben, je pense qu'il va falloir qu'on se pose ces questions-là. Puis le rapport n'émet pas de recommandations par rapport à cette disparité-là. Elle en fait le constat.
Ouais.
Mais même nos expertes elles-mêmes, elles nous disent que ces besoins-là, ils existent, qu'il faut qu'on se penche sur les questions. Mais même elles nous apportent pas de recommandations par rapport à ça. Mais il faut qu'on se penche là-dessus. Puis nous, en chambre, j'ai demandé à la ministre que le gouvernement se pose ces questions-là, se penche sur cette problématique, puis qu'on ait des études un peu plus détaillées sur la question. Mais en ce moment, on a plus de questions que de réponses quant à cette disparité-là, mais c'est pas étonnant. Malheureusement, j'allais dire c'est étonnant, mais c'est pas vrai. C'est pas étonnant, mais c'est déprimant.
Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est l'omniprésence des écrans?
Là, il faudrait voir, est-ce que les garçons passent plus de temps dans les écrans que les filles?
Je pense que oui, mais moi, c'est ce qui me déprime aussi dans ce rapport-là, c'est les solutions qu'on propose.
Les correctiels.
On veut sortir la littérature du collégial, alors que c'est peut-être le seul moment dans l'existence d'un citoyen, d'une citoyenne, où la littérature française, francophone... va être comme imposé, parce qu'au collégial, au secondaire, on n'en lit presque plus. Accroître la place du numérique, des outils technologiques, ils sont comme obsédés par ça, comme si ça allait chercher les jeunes. Ça, c'est la deuxième grande catégorie de solutions.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Troisièmement, intégrer des correcticiels comme antidote même lors de l'épreuve uniforme.
Oui, je ne suis pas sûre qu'au niveau des correcticiels, que ce soit nécessairement la bonne avenue.
C'est une béquille.
D'expérience personnelle, j'ai l'impression que quand on est déjà fort en français, qu'on a cette curiosité-là pour les règles grammaticales, pour les accords, pour la qualité de la langue, on va vouloir soumettre une copie impeccable. Et là, on va utiliser ces outils-là qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer ce qu'on soumet à notre enseignant. Mais j'ai l'impression, puis ici, on s'attaque particulièrement donc aux élèves qui sont en difficulté. J'ai pas l'impression que la recommandation qui concerne les correctiels va nécessairement pouvoir aider ces jeunes-là à améliorer leur connaissance du français. Est-ce que bien souvent, un jeune qui est déjà en difficulté, est-ce que c'est vraiment cet outil-là qui va lui donner des solutions? Et plus que la recommandation, je pense que le rapport le mentionne, c'est dans les paragraphes. Je pense qu'il y a une explication qui est autour de ça. Puis l'explication, elle est légitime. C'est de dire qu'il faut qu'on puisse outiller nos jeunes parce que ceux qui sont en situation d'échec, statistiquement, après avoir échoué à l'épreuve uniforme de français ou collégiale, après 3 ou 4 reprises, la probabilité que ce jeune-là passe son cégep et un niveau de diplomation et atteint sa diplomation.
Là aussi, les expertes, elles disent presque qu'il faudrait les faire passer parce que c'est un traumatisme de couler l'examen.
Parce que c'est un drame humain, ce drame, c'est un drame individuel. C'est comme ça que c'est mis.
Est-ce que ça, c'est pas une mauvaise approche?
Mais je comprends l'aspect du drame humain. C'est ça, je pense que c'est important, mais... En effet, je suis pas certaine.
Est-ce que c'est pas nivelé par le bas?
Faut pas niveler par le bas. Faut pas niveler par le bas, c'est certain.
Si on dit on veut éviter les drames, on fait passer tout le monde à l'épreuve uniforme, ça a tout de sens. Hein?
Moi, je pense que c'est important de mentionner ces drames humains-là. Je pense que c'est important de le mentionner que nos jeunes qui prouvent des difficultés puis qui sont pas capables de se qualifier pour la suite, ils font face à un drame qui est immense. Puis ça, faut pas le négliger. Ceci dit,
il y a peut-être d'autres voies pour eux.
Exactement, mais la solution à ça, c'est pas de niveler par le bas. La solution à ça, c'est évidemment une préparation en amont. Il y a des choses qui ont pas été acquises précédemment, manifestement, donc c'est une meilleure
préparation.
Mais
qu'est-ce qu'on fait de mal au primaire et au secondaire pour qu'on arrive au collège? Mais en ce moment,
ma circonscription est située, le centre de service scolaire qui occupe donc ma circonscription, c'est celui de la Pointe-de-l'Île. Donc, j'ai une vingtaine d'écoles de ce centre de service scolaire-là chez nous. Et même chez nous, comme partout au Québec, on a des enseignants qui sont non légalement qualifiés dans nos écoles. Moi, j'ai fait le tour des écoles, on avait des journées de la persévérance.
Mais attention, non légalement qualifié, ça peut vouloir dire quelqu'un qui a une maîtrise ou un doctorat en littérature, mais qui n'a pas fait la saprée formation de pédagogie de 4 ans qui est très longue. Fois que tu as fait une maîtrise en littérature...
Mais moi, j'ai visité mes écoles, M. Robitaille, puis c'est pas nécessairement ce profil-là qui se trouve dans nos écoles quand on parle de personnel non légalement qualifié. Donc, évidemment,
mais pendant 30 ans, c'est ça qu'on a fait. Depuis la réforme Chagnon, on a fait en sorte que ceux qui étaient diplômés dans la matière, mettons un prof en chimie qui aurait voulu transmettre ses connaissances, quelqu'un qui a un bac ou une maîtrise en chimie, il ne pouvait pas y aller au secondaire parce qu'il n'y avait pas de passerelle rapide comme avant. Depuis 1994, c'est comme ça. Alors, ce qui vaut pour la chimie est bon pour c'est bon pour l'histoire, pour le français, tout ça. Et c'est peut-être ça qui fait que on dit non légalement qualifié, mais souvent, est-ce que c'est pas eux qui étaient les plus qualifiés?
Je vous entends là-dessus, mais la réalité... parce que là, je reviens à la réalité sur le terrain. Parce qu'après ça, il y a la définition cadre, puisque ce que vous venez de mentionner, puis ces exemples-là qui définitivement, je pense que ça fait partie d'un débat qui est à part.
Mais aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire n'importe qui peut devenir prof, c'est ça que vous voulez dire?
C'est
même des personnes qui n'ont pas de diplôme.
Ben, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire en ce moment sur le terrain. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, comme je dis, moi, je l'ai vu. Puis, nous, et évidemment, tu sais, oui, il y a des personnes qui ont des compétences hautes. Puis, que c'est. Il y a un potentiel exceptionnel d'apprentissage. Puis, que ça fonctionne très bien dans nos écoles. Mais il y en a d'autres qui, malheureusement, ne sont pas en mesure de répondre, en fait, de répondre aux besoins des jeunes. Puis, c'est pas juste ça, parce que, en fait, la présence de ces gens-là, bien souvent, ils sont pas là pour toute l'année scolaire. Il y a beaucoup de nos enfants en ce moment qui font face à plusieurs substituts, là, plusieurs substituts pendant la même année scolaire, pendant la même école scolaire. Donc, c'est aussi ça. C'est beaucoup ce que ça signifie en ce moment à l'intérieur de notre réseau. Donc, je reviens à ça, puis à la préparation en amont, ce que vous demandiez, est-ce qu'il faut qu'on nivelle par le bas? La réponse, c'est non. Donc, oui, plus tard, si on ne s'est pas préparé à l'avance et si on n'a pas fait ce qui était nécessaire au préalable, on arrive avec des jeunes qui ne sont pas capables de trouver le sujet dans une phrase. Ça fait partie du rapport. Si on n'est pas capable d'identifier le sujet dans une phrase, puis ça, c'est un enjeu.
Les écrans, justement, le numérique, est-ce que ce n'est pas trop présent à l'école aussi? Est-ce que ce n'est pas un problème alors que les trois experts nous disent que ça prend encore plus de rédaction numérique? Puis là, j'ai le livre ici avec moi, Le désastre de l'école numérique, où il y a cette phrase formidable. C'est bien la première fois qu'on préconise l'augmentation des doses dans un problème d'addiction.
C'est intéressant, ça. Fait que
est-ce vous, moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Vous passerez votre copie par la suite, une fois que vous l'aurez terminée.
Faut que vous lisiez ça. Ouais. C'est un espèce de pamphlet anti-école numérique. Bon, avec les défauts que ça peut avoir, là,
à l'emporte-pièce.
Mais il me semble que les écrans sont tellement présents dans la vie des jeunes que parfois, ça peut nuire à l'apprentissage. Alors que là, les trois experts nous disent « Non, faut en faire plus! »
Bien, c'est certainement un outil parce que de toute façon, par la suite, dans le milieu professionnel, donc le numérique va faire partie de l'environnement de travail des jeunes là, qui embarqueront dans leur vie professionnelle.
Oui, mais pour l'apprentissage.
Mais pour l'apprentissage, mais c'est ça, donc je reviens. Donc, mais pour l'apprentissage, en effet, je pense que j'aborde un petit peu dans le même sens que vous, que je ne suis pas certaine que plus, encore plus de numérique, ce soit la solution. On est en mesure de sceller les apprentissages avec le bon vieux papier puis le crayon. Puis ça fait le travail. Ça fait le travail, comme on dit, mais pour parler un peu des correctiels, c'est plutôt... En effet, sur cette question-là, je reviens parce que j'ai l'impression que je n'avais pas tout à fait terminé mon propos un peu plus tôt. C'est important qu'on prenne acte de ces drames-là puis qu'on s'assure de favoriser la réussite scolaire, la réussite académique de nos jeunes. Mais je ne suis pas certaine que l'emploi de ces correctiels-là, ce soit la manière de pouvoir le faire. Il faut qu'on ait les outils, dont des cours d'appoint quand les jeunes arrivent au cégep. Puis on n'a pas passé beaucoup de temps sur le 75%. Là, puis ça, je trouve ça vraiment important parce qu'on a une donnée très importante dans ce rapport-là, qu'il fait que des jeunes qui n'ont pas obtenu la note de 75% à leur épreuve unique de français, 5e secondaire, langue maternelle, ici, c'est statistiquement significatif. Là. Donc, il y a une distinction entre ces jeunes au niveau du taux d'obtention du diplôme d'études collégiales, qui est à peu près de 84% pour ceux qui ont obtenu plus de 75% là, cette épreuve de français-là, et qui baisse de façon draconienne pour ceux qui ont obtenu une note inférieure à 75%. On a une donnée sur laquelle il faut agir ici, puis en ce moment, c'est pas comme ça qu'on attribue les cours d'appoint au collégial.
On verra finalement ce que le GALF, le groupe d'action sur l'avenir de la langue française, dont Mme Derry nous a parlé. Moi non plus. Ça fait gaffe un peu.
Ben exactement, ça alors, fait Gaston la gaffe.
Peut-être qu'il faut faire gaffe.
C'est prémonitoire.
Il faut faire gaffe, Madouanika Cadet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, député de Bourassa-Sauvé, porte-parole en matière de langue française, entre autres. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.